Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, merci d'être fidèle au réveil culturel. Jean Dubuffet est à l'honneur à Marseille actuellement dans une riche expo rétrospective au MUCEM. Jean Dubuffet ou l'artiste réfractaire, celui qui a tout fait pour sortir l'art de ses cadres et de ses musées. Et fuyant les théoriciens de l'art et les intellectuels, Dubuffet a préféré travailler avec des artistes de rue, des écrivains pas forcément connus, des ethnologues et des voyageurs, des psychiatres et leurs patients. L'inventeur de l'expression « l'art brut » était-il un barbare en Europe ? Pour reprendre l'intitulé de l'exposition qui va restituer à travers près de 300 œuvres et objets issus des plus grandes collections, le cheminement de l'œuvre de Dubuffet sous l'angle de l'histoire culturelle et de l'anthropologie. Notre invité ce matin est le commissaire de cette exposition, Baptiste Brun.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
J'éprouve une très grande inclination pour la sève, pour ce qu'on peut appeler la sève, la verdeur, voire même dans certains cas la brutalité, la sauvagerie. Et pour cette raison, c'est chez les gens du commun, les petites gens d'instruction très sommaire, que je me tourne pour trouver ces phénomènes de sève, beaucoup plus que chez les intellectuels où ces phénomènes-là me semblent absents. Et c'est précisément cette crainte de me confiner, comme le font les intellectuels, dans une espèce d'îlot stérilisé, qui a fait que j'ai abandonné à plusieurs reprises l'activité de production d'art.
C'était Jean Dubuffet en 1977. Bonjour Baptiste Brun.
Bonjour.
Vous êtes donc le commissaire de cette exposition qui a lieu jusqu'au 2 septembre au MUCEM à Marseille. Jean Dubuffet, un barbare en Europe. Vous êtes par ailleurs maître de conférences en histoire de l'art contemporain à l'université Rennes 2 et auteur de cet ouvrage qui vient de paraître aux presses du réel, Jean Dubuffet et la besogne de l'art brut. Alors, cette exposition, exposition rétrospective, riche avec ses 290 œuvres et objets issus des plus grande collection, raconte un Jean Dubuffet réfractaire à l'art, au mouvement qui l'ont porté un peu.
Oui, réfractaire, c'est un petit peu, je dirais, l'un des mots d'ordre quand il s'agit de Dubuffet. On a voulu présenter, je dirais, une forme de portrait de Dubuffet dépeint en barbare en Europe, parce que Dubuffet a essayé, je dirais, de remettre en cause l'entendement que l'on avait jusqu'alors de l'art et des manières de fonctionner aussi autour de la question de l'art à la fin de la guerre, dans l'immédiate après-guerre.
On va questionner bien sûr le mot barbare, mais enfin le titre de l'exposition fait bien sûr référence au livre d'Henri Michaud, Un barbare en Asie, où ce dernier découvrait qu'en pays barbare, entre guillemets, dans une autre culture, c'était lui le barbare. Et ça a été aussi la réflexion de Jean Dubuffet.
Exactement. Dubuffet, c'est quelqu'un, on utilise le terme de barbare comme un élément pour le situer. Et Dubuffet se situe toujours à contre-courant en essayant de montrer que les hiérarchies instituées sont toujours culturellement construites. Et son idée, c'est d'aller un petit peu systématiquement contre. Donc le réfractaire et le barbare, il se joue là dans une contestation systématique des hiérarchies, d'une part, qui sont héritées du 19e siècle.
De l'art occidental, donc.
De l'art occidental en particulier. Et d'autre part aussi d'essayer de montrer le caractère qu'il jugeait factice de ces manières de se situer dans le monde de l'art et de penser la création artistique.
Et l'art est partout, disait-il en substance.
L'art est partout. Avec Dubuffet, il y a vraiment cette recherche aussi de l'art tous azimuts, et surtout pas dans les circuits qui étaient généralement dédiés à la découverte
de l'art. Et qu'il n'a pas emprunté, c'est peut-être ça. Cela peut expliquer ceci.
Oui, Dubuffet, ce qui est assez curieux, c'est sa position singulière. C'est quelqu'un qui est né en 1901 et qui bénéficie d'une première exposition personnelle en 1944. Il a 43 ans. C'est assez rare, en fait, cette forme de retard de l'entrée dans le monde de l'art. Avant ça, Dubuffet, c'est un commerçant.
Un marchand de vin.
Un marchand de vin. tout simplement. Mais même si pendant l'entre-deux-guerres, il fait un petit peu ses classes, hein, il va faire une école de beaux-arts au Havre, qui est sa ville natale, et puis ensuite il va fréquenter des gens de l'avant-garde dans les années 20, encore dans les années 30, mais il se lance pas. C'est comme s'il y avait une forme de complexe d'ailleurs, c'est assez curieux, mais il faudra attendre 1944-1945 pour voir un Jean Dubuffet qui d'une part trouve une manière en termes artistiques qu'il satisfait, ça c'est un point important, et puis d'autre part aussi une conception de l'art qui commence à s'affiner à cette époque avec l'invention d'une notion qui va faire florès, qui est la notion d'art brut.
Et c'est lui l'inventeur de cette formule, l'art brut.
Tout à fait. Petit poème, hein, l'art est jamais brut. L'art brut, c'est un oxymore, mais là, il le fait travailler. Hein, c'est un terme qui fait vraiment problème. Et ça va le guider dans ce qu'il va appeler des prospections, qui vont l'amener à rencontrer des psychiatres, des ethnographes, des anthropologues et autres, et qui vont eh bien nourrir aussi cette conception singulière de l'art, nourrir sa propre pratique de peintre, nourrir aussi son travail d'écrivain, parce que c'est un écrivain prolifique.
Et toujours contre les courants dominants.
Toujours contre les courants dominants. On est à un moment particulier dans l'après-guerre. C'est le moment de l'institutionnalisation de l'avant-garde. Et il s'agirait de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ça, Dubuffet, c'est quelqu'un qui est toujours un petit peu dans cette activité un peu subversive. Et il va, au moment où le musée d'art moderne s'institutionnalise, au moment où la critique d'art eh bien glorifie tout le travail qui avait été produit dans les décennies précédentes, eh bien il va chercher à déranger un petit peu tout cela en affirmant sans cesse que la création doit aller contre.
Il avait de bonnes relations avec Henri Michaux, on en a parlé, avec Claude Lévi-Strauss, mais comment les peintres, les artistes de son époque le voyaient ?
Alors c'est délicat, il y a
une majorité... critiques d'art qui ont soutenu Jean Dubuffet depuis le début. Hein.
Tout à fait, Jean Paulhan notamment, hein, Pierre Séguer, Sandré Malraux, bon nombre de critiques d'art influents de ce moment-là. Mais il n'en reste pas moins que la majorité de la critique et la majorité des peintres aussi qui sont associés à cette critique sont plutôt hostiles à Dubuffet. D'ailleurs, pour en revenir à son passé de commerçant, on dit souvent c'est une mauvaise peinture, c'est une peinture de marchand de vin. Et puis en même temps, on a une part infime de la critique et quelques artistes comme Fautrier, par exemple, et puis les artistes de Cobra, comme Asger Jorn, qui vont s'intéresser très tôt à sa production. Et nombre d'entre eux, d'ailleurs, diront, dans un sens inverse, c'est une peinture formidable, c'est une peinture de marchand de vin. Mais voilà cette position singulière qui est la sienne dans ce champ artistique où, finalement, la professionnalisation de l'art, c'est un peu l'ennemi pour Dubuffet lorsqu'il arrive sur ce monde de l'art en 1944-1945.
Et dans cette exposition actuellement donc au Mucem jusqu'au 2 septembre, Baptiste Brun, on voit bien comment Dubuffet a aussi évolué. Hein. C'est-à-dire que avant de théoriser la notion de l'art brut, il y a quelques toiles qui peuvent le faire passer pour un peintre de son époque, remettant à peine en cause son époque. C'est après qu'il vient avec des expérimentations assez radicales.
L'entre-deux-guerres, lorsqu'il s'essaie à la peinture en 1922-23, puis ensuite il y revient dans les années 30, dans le courant des années 30, c'est un peintre qui connaît un petit peu les turiféraires de ce que sera le surréalisme. C'est un peintre qui va notamment imiter un petit peu la manière d'André Masson. Puis un peu plus tard, il fait une peinture qui relève du retour à l'ordre. C'est un beau métier, c'est une facture assez lisse, de la peinture à l'huile, on ne peut plus classique à cette époque-là. Et effectivement, il dit qu'il cherche l'entrée. Hein, et cette entrée, il finira par la trouver à l'hiver 42-43. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il trouve une manière extrêmement singulière, un chromatisme très fort. On montre une petite toile d'ailleurs au début de l'exposition qui s'appelle le petit sergent-major, qui représente un homme nu avec une moustache, un petit sergent-major sans uniforme. C'est l'idée ici de célébrer l'homme du commun, qui est un point essentiel chez lui, et de brancher l'art sur la vie courante. C'est ça son idée.
Alors comment brancher l'art sur la vie courante? En le sortant des cadres, parce qu'il est obsédé déjà par la 3D, avant l'heure, et puis aussi il se met à imaginer des personnages qui évolueraient en dehors du cadre, c'est-à-dire qu'il pourrait animer.
Tout à fait. Animer le tableau, ça va être un de ses grands soucis. D'ailleurs, il y arrivera. On montre ça aussi dans l'exposition avec ce moment important qu'est le spectacle Coucou Bazar, où il dit justement mettre en œuvre une peinture animée où l'on voit un grand champ ourloupéen. Hein, c'est son fameux cycle de l'ourloupe. Ces formes bleues et rouges et blanches cernées de noir qu'on connaît bien. Et ce sont des panneaux qui s'entremêlent les uns aux autres. Et devant ces panneaux, vous avez des praticables qui bougent, qui va monter sur des petites roulettes, d'ailleurs, parfois aidés de petits moteurs moteurs électriques, et aussi des mannequins et des costumes qui peuvent être habités, hein, très clairement. On montre d'ailleurs le triomphateur, qui est un grand costume, qui rappelle l'art du carnaval aussi, qui se branche un petit peu sur une tradition de l'art populaire. Ce n'est pas sans rappeler les grandes figures du carnaval de Binche en Belgique.
Du Buffet qui a fait des masques d'ailleurs.
Hein. Et qui a fait des masques dès les années 30. Donc il est toujours en prise ici avec cette idée que l'art agit dans le présent. Ça c'est un point essentiel pour lui, que cette activité au cœur même de l'espace d'exposition.
C'est un Est-ce point que ces influences viennent d'ailleurs, cet ailleurs qui est hors champ, c'est-à-dire on va commencer à parler de la culture qui est loin des grandes institutions, avant d'arriver à la notion d'art brut, est-ce qu'il est influencé par tout ce qu'il voit à l'extérieur, puisqu'il va être un des premiers à considérer le graffiti comme une forme d'art populaire?
C'est une tête chercheuse. Le graffiti, c'est un élément central de ses expérimentations autour de 1944. Il est en relation avec Brassailles, qui photographie depuis une dizaine d'années les graffitis à cette époque. Il connaît aussi Henri Calais, qui est un écrivain majeur et qui s'est penché sur la question du graffiti, notamment en se rendant à la prison de Fresnes au moment de la libération pour relever les graffitis des prisonniers sur les murs. Ce graffiti, c'est l'idée d'un art sans exercice, que l'on retrouve depuis l'homme des cavernes jusqu'au pur présent, hein, comme le disait Brassailles, ça va du mur des cavernes au mur d'usine, cet art du graffiti. Donc c'est un art qui procède du banal finalement et justement qui résiste mal au radar qui est celui de l'art institutionnel, en tout cas de l'entre-deux-guerres. Et puis plus avant, Dubuffet c'est une tête chercheuse, il va phagocyter différentes expressions artistiques qui n'étaient pas forcément considérées comme de l'art. Et donc sa focale va largement s'ouvrir et il va s'intéresser à cette super catégorie que l'entre-deux-guerres qualifiait d'art primitif. Alors c'était pêle-mêle, hein, les arts qui étaient...
terme qui va récuser d'ailleurs.
Un terme qui va récuser complètement, justement, ouais. En montrant que finalement cette hiérarchie verticale, où l'art primitif serait tout en bas de l'échelle évolutionniste et l'art civilisé inspiré de la Renaissance tout en haut, c'est une relation construite ici, et c'est complètement caduque. Donc il récuse cela, et donc il va s'intéresser pêle-mêle à l'art des enfants, à l'art populaire, au folklore, à des formes d'art africain, d'art océanien. Il regarde vraiment dans tous les sens. Et les asiles, à l'évidence.
L'art fou.
L'hôpital psychiatrique. Alors l'art fou, d'ailleurs, il dira, il n'y a pas d'art des fous. L'art des fous, c'est une notion qui le dérange un petit peu, parce que c'est comme dire qu'il y aura un art qui serait spécifique aux plombiers ou un art qui serait spécifique aux maçons. Il dit, il n'y a pas plus d'art des fous que d'art des dyspeptiques ou des malades du genou. Mais derrière cette idée, c'est juste de dire... dans les hôpitaux psychiatriques, le délire amène à des formes artistiques qui sont extrêmement singulières. Mais en même temps, au travers de ses recherches, c'était assez rare de trouver la pépite dans un matériau assez incroyable qu'on pouvait découvrir dans les hôpitaux psychiatriques.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Time after time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. I only know what I know, the passing years will show. You've kept my love so young, so new, and time after time you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. Thank you. know what I know. The passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you.
Tu récuseras ce que tu avais pris pour la réalité. Ton regard, tu le déshumaniseras, tu le nettoieras de tout ce qu'on avait voulu t'apprendre, tu le libéreras, etc., etc., etc. C'est Jean Dubuffet à la fin de sa vie. Jean Dubuffet, un barbare en Europe, c'est l'exposition, la grande exposition du MUCEM à Marseille. Si vous habitez la cité phocéenne, vous avez bien de la chance parce que vous pourrez la visiter. Cette grande expo, c'est jusqu'au 2 septembre. Mais si vous êtes pas du tout marseillais et si vos chemins de vacances d'été vous mène pas loin de Marseille, n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir cette exposition. Et nous sommes ce matin avec le commissaire Baptiste Brun. Il y a dans cette exposition deux focus, c'est-à-dire à un certain moment, on va voir un peu les voyages de Jean Dubuffet. Il a été voyageur, Jean Dubuffet, notamment au Sahara. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est vraiment le contrepoint de la peinture dite orientaliste. Il fait exactement ce que les orientalistes ne font pas et vice-versa. C'est-à-dire tout ce qu'ils ne font pas, les orientalistes, lui, il le fait. C'est-à-dire se mettre en scène avec les indigènes, utiliser la matière des territoires. Et ça donne donc, dans cette exposition, un drôle de dialogue avec toutes les expositions célébrant les orientalistes aujourd'hui à Paris ou à Roubaix.
Oui, le fait est que Dubuffet est amené à partir au Sahara à trois reprises, en 47, 48, puis 49, et ces trois voyages vont avoir une incidence majeure sur sa conception des choses. Parce qu'il part là-bas dans une idée un petit peu de découvrir, je dirais, le désert de la culture, et puis au final, il se rend compte qu'il y a une culture du désert. Et ça, c'est un vrai électrochoc pour lui. Alors ce qui nous intéressait dans l'exposition, c'était de montrer tout ce travail qu'il a produit sur place. Il a beaucoup peint sur place.
Et
il a
contre les orientalistes. Là.
Et contre les orientalistes, parce que l'idée, justement, c'était de prendre en charge ce legs orientaliste et, comme à l'habitude, de le subvertir. Donc, en essayant d'être au cœur d'une matière ici qui ne soit pas illusionniste, finalement, et de donner à voir cette réalité presque physique du désert qu'il rencontre autour d'El Goléa ou de Timimoun dans le centre de l'Algérie.
Jusqu'à Taman Rasset, d'ailleurs.
Jusqu'à Taman Rasset.
Aller là où les orientalistes ne vont pas. Apprendre les langues berbères, tamashek, des Touaregs et la langue arabe, s'intéresser aux musiques du Sahara, lui qui a fait des expérimentations aussi musicales, Jean Dubuffet.
On le voit jouer de la flûte dans une image avec des habitants de l'oasis d'El Goléa. Et ça va avoir une importance déterminante là aussi, effectivement, dans la musique qu'il produira un petit peu plus tard, en 1960-61, en compagnie d'Asger Jorn et d'Henri Michaud, ce qu'il appelait ses expériences musicales, ou la musique phénoménale. Ménologique, musique bruitiste comme ça, très, très impressionnante. Ben, finalement, l'idée, c'est que Dubuffet, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'entre-deux-guerres, ensuite des orientalistes, c'est qu'il y a l'avènement d'une forme d'anthropologie qui prône une forme d'observation participante. Et Dubuffet, en partant là-bas, il dit adopter le genre arabisant à outrance. Derrière, l'idée, finalement, c'est d'apprendre la langue, de revêtir le burnou et de vivre sur place avec les habitants.
Mais donc, pas à la manière d'Isabelle Hébérard, hein, parce qu'il se moque aussi de lui-même, hein. C'est-à-dire il se représente lui-même avec des bédouins.
Avec des bédouins, il y a cette idée toujours de se situer. Hein, c'est toujours cette affaire de décaler un petit peu le regard, de repenser la question de l'altérité. Et donc,
et ça en incitant les gens à dessiner avec lui. Hein. Il n'y a pas que un dessinateur et des modèles. Les deux fonctions vont ensemble avec Dubuffet.
On est très heureux dans l'exposition de montrer notamment un portrait qu'a fait Dubuffet qui s'appelle L'Arabe à l'œillet, dont on sait que c'est un portrait de quelqu'un qui était son logeur à El Goléa, qui s'appelle Kadour Douida. Et on a retrouvé aussi à la collection de l'Art Brut à Lausanne un ensemble de peintures de Kadour Douida. Donc c'est dire qu'il peignait sur place avec des gens. Hein. Dans ses carnets aussi, on retrouve des dessins d'un chamelier qui s'appelle Ben Yahia. Donc là, c'est amusant parce qu'on le voit, je dirais, dans un principe de vase communicant, à regarder ce que font les autres.
Et cette liberté qu'il a, Dubuffet, c'est parce qu'il se considère comme ethnographe et plus qu'en peintre à cette période-là?
Alors ça, je ne crois pas, finalement. Peut-être que l'ethnographie représente une forme d'horizon de pratique, mais il détourne ses pratiques dans, enfin, au profit de son projet artistique.
Parce qu'on l'avait entendu là au début quand il dit j'ai cessé de peindre pour m'intéresser aux autres, pour aller très vite, quoi.
Ouais, bah il y a chez lui cette espèce de, je parlais tout à l'heure de la tête chercheuse, hein, cet esprit de curiosité extrêmement ouvert, qui n'est pas non plus, je dirais, dépouillé totalement des scories de racisme et autres qui venaient de son éducation bourgeoise, hein, mais il se bat contre ça. Il y a vraiment cette volonté de s'affranchir de cela. Et donc, il y a cette peinture très étonnante, mais qui, d'un coup, replace les choses sur une espèce d'horizon commun, parce qu'il n'y a pas grande différence entre les peintures qu'il va réaliser à partir d'un motif comme le métro parisien et ses voyages au Sahara algérien. Ce qu'on retrouve, finalement, au cœur de son œuvre, c'est l'homme qui est dépeint sous toutes ses coutures.
Bon, ceci dit, pour le carnet de gouache, c'était en 1943, ces voyages en métro, c'était une manière, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, d'être underground, d'échapper justement à ce qui se faisait à l'époque dans les grandes galeries.
Dubuffet, en cherchant ce qu'il appelle l'horizon de l'homme du commun, il se détourne des sujets d'exception. C'est le banal qu'il recherche, et quoi de plus banal que le métro? Ça, c'est un point pour lui intéressant. Donc, underground, je dirais, pourquoi pas, mais c'est surtout vraiment cette affaire de se brancher sur la vie courante, ça se situe.
C'est son idée, c'est l'idée de Jean Paulhan.
Il le partage vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que Paulhan passe dans l'atelier de Dubuffet pour voir ce carnet de gouache qu'il conservait au Centre Pompidou en 1943. Il est complètement fasciné. Il va écrire un texte qui rend hommage à cet ensemble de gouache qui s'appelle La Métromanie ou Les Dessous de la Capitale. Et en échange, Dubuffet va entièrement calligraphier ce texte dans un petit bouquin qui est absolument formidable, qui date de 1949. Plus de 130 pages comme ça, qui sont écrites au calame.
Et qui sont exposées au
Musée. Et qui sont exposées au Musée.
Parce qu'il y a aussi sa correspondance, il y a beaucoup de documents.
Oui, alors on a voulu bien évidemment aussi donner à voir le travail de Dubuffet. Parce que Dubuffet, bon, c'est un peintre extrêmement prolifique, on sait cela. On sait un petit peu moins, mais on sait qu'il écrit beaucoup. Mais il y a aussi toutes ces correspondances incroyables.
Et c'est ça qui met en relief son côté réfractaire du début jusqu'à la fin de sa carrière.
Ah ben, il polémique, ouais. Hein, constamment dans ses correspondances. On le voit, c'est vraiment tailler le bout de gras jusqu'au conflit parfois acerbe. Hein, il a polémiqué avec des gens comme Combrowitz, il a polémiqué avec des anthropologues, il s'est mis parfois à dos des psychiatres importants comme Gaston Ferrière. Donc il a toujours voulu, et on rend hommage un petit peu à cet esprit-là en montrant un tableau qui s'appelle Colloque sous les arbres, où on voit deux personnages qui sont affrontés. Et c'est très souvent dans la peinture de Dubuffet, on voit deux personnages qui sont en train de discuter. La discute chez Dubuffet, c'est aussi l'art de la dispute. Et ça, c'est sa dimension philosophique finalement. Tout doit procéder par la contradiction.
Et vous, Baptiste Brun, comment êtes-vous arrivé au monde de Jean Dubuffet? Par quelle porte? Est-ce que c'est par l'art brut ou par une...
C'est plutôt l'art brut, ouais. Effectivement. Ouais, j'ai connu des artistes qui organisent une biennale à Lyon qui s'appelle la Biennale hors normes et qui m'ont familiarisé un petit peu avec, je dirais, ces interstices de la création de l'art brut dans les années 1990-2000. Il y avait comme ça ce moment où ça émergeait un petit peu. J'étais jeune étudiant à l'école du Louvre et c'était une grosse bouffée d'air que d'entendre parler de cet art brut et de le voir aussi. Et puis finalement, quand on se penche un peu sur la question de l'art brut, on tombe inévitablement sur Dubuffet.
Et aujourd'hui, l'art brut, selon Dubuffet, c'est toujours la même définition ?
Non, il y a vraiment une évolution. Alors, bonne ou mauvaise, je ne trancherai pas forcément, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on réduit un petit peu l'art brut à la question de la pathologie, de la déficience mentale et autres. Et je crois que c'est une espèce de renfermement un petit peu.
Alors que lui, il l'ouvrait, y compris au dessin d'enfant.
Ouais. C'est le décloisonnement par excellence du Dubuffet. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas tant la question de du producteur chez Dubuffet qui va compter, mais c'est pas tant le fait que le producteur soit fou, comme on pourrait le dire, mais c'est que l'œuvre nous affole. Il faut que l'œuvre soit folle. C'est ça qu'intéresse Dubuffet. Et son critère absolu, finalement, c'est l'invention plastique. C'est ça qui retient son attention. C'est cela qui guide son regard et qui l'arrête.
Et on quitte cette exposition Jean Dubuffet, un barbare en Europe au Musée, par un texte qui est vraiment un manifeste, un de ses derniers textes, hein, Baptiste Brun.
C'est un texte qui s'intitule Oriflamme. On a su très tôt qu'on voulait terminer sur ce dernier livre que publie Dubuffet en 1984. Et c'est un texte donc qui est accompagné de 16 sérigraphies qui sont ses œuvres dans lesquelles Dubuffet, hein, qu'il appelle les mires, dans lesquels il n'y a plus de figure humaine, il n'y a plus de site, il y a juste des énergies graphiques comme ça qui traversent les pages. Et puis le texte, c'est un court texte hein, de 4 pages, mais qui...
Sans ponctuation, à lire comme ça.
Toujours la prise de difficulté, hein, il nous met en danger un petit peu.
Et quand on sort de cette exposition, on se dit qu'il nous manque un barbare aujourd'hui. Un peu comme du Buffet qui viendrait remettre en cause, en question du moins, tout ce qui se fait en art contemporain.
Je ne sais pas si je suis sûr qu'il y a des artistes contemporains aujourd'hui qui nous donnent aussi à réfléchir un petit peu à tout cela. Mais c'est vrai que, je dirais, il y a une question d'historicité qui se pose, quoi. Du Buffet, c'est les années 40, 50 et au-delà. Et dans ce moment-là, le vernis culturel craque dans tous les sens. Alors, il est probable qu'aujourd'hui, peut-être, on va avoir des figures de grands contestataires qui vont se présenter, qui feront peut-être écho aussi à cet héritage de Du Buffet.
Bon, alors, vive les barbares!
Vive les barbares!
Jean Du Buffet, un barbare en Europe, c'est l'exposition au Mucem à Marseille jusqu'au 2 septembre. Merci, Baptiste Brun. Je rappelle que vous étiez le commissaire de cette exposition. Merci d'être venu nous en parler ce matin dans le Réveil Culturel.
Merci à vous, au revoir.
Réveil Culturel préparé avec Corinne Amar, réalisé par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Benjamin Vignal. On se retrouve demain, et demain, comme tous les mercredis, on parlera cinéma.